France Musique.
Saskia Deville, la matinale, France Musique.
Trois femmes et un homme pour une formation française éclectique et novatrice. Le quatuor que je reçois ce matin est né en 2003. Disciple des quatuors Isaïe et Alban Berg, les quatre musiciens qu'ils composent ont eux aussi un répertoire large, allant de la période classique au contemporain, du cinéma muet à la musique pop, folk et canadienne. Nommé Rising Star par la Cité de la Musique en 2013, il s'impose depuis lors sur les scènes, un peu partout, avec ou sans chorégraphe. Le quatuor Voce est avec nous, ou du moins trois de ses membres. Bonjour, Lydia Chellet, Sarah Dayan et Cécile Roubin. On va quand même citer le quatrième membre de ce quatuor qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous ce matin, c'est Guillaume Becker à l'alto. Alors Sarah Dayan, Cécile Roubin, vous êtes les deux violonistes de ce quatuor Voce. Lydia Chellet, vous en êtes la violoncelliste. On commence toujours l'émission en fêtant un anniversaire à cette heure-ci. Et aujourd'hui, il y a 200 ans, c'est le compositeur danois Niels Gade qui voyait le jour. Alors on ne connaît pas très bien sa musique de chambre, un peu, qui a un petit peu subi l'ombre de ses grandes symphonies. C'est un répertoire que vous avez déjà abordé à tout hasard?
Pas du tout.
Pas du tout? Ça vous dit quelque chose?
Mais très honnêtement, même pas.
Même pas? Mais c'est super, on va pouvoir découvrir ça ensemble ce matin.
On va découvrir.
Je vous propose d'écouter le scherzo de son quatuor en mi mineur, Niels Gade. On écoute l'ensemble Midwest. Quelques notes du scherzo du quatuor en mi mineur de Niels Gade, interprété par l'ensemble Midwest. C'est un quatuor que vous aimeriez jouer, l'une de vous trois, je ne sais pas, Lydia Shelley, Sarah Dayan ou Cécile Roubin? Lydia Shelley peut-être?
Ben non, en fait, moi je connais pas. C'était pas ça la question.
C'était pas ça la question. Mais c'est pas grave, on va se réveiller tout doucement. Je me demandais si ça vous donnait envie de jouer ce.
Bah oui, c'est très matinal.
Cette musique-là.
Très gay et tout. Pourquoi pas?
Il y a des petits airs schubertiens, non?
Oui, un petit peu de
on
ça.
J'ai l'impression qu'ils se seraient peut-être rencontrés. Je sais pas.
Qui sait? C'est une excellente question. Je pense que niveau date, ça sonne pas tout à fait,
c'est pas tout à fait la même période.
C'est
peut-être pas possible, en fait. Ouais.
C'est peut-être pas possible, mais on va se renseigner. Il est 8h10 sur France Musique, on va retrouver Antoine Pecker. Bonjour Antoine.
Bonjour Saskia, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez Scope. C'est la sortie d'un livre intitulé « Le bonheur est dans la Scope » aux éditions des Petits Matins. Que représentent aujourd'hui les Scopes dans le tissu économique?
Alors Scope, ce sont donc les initiales pour sociétés coopératives et participatives. Le principe est que dans ces structures, les salariés ne sont plus de simples exécutants, mais de véritables co-entrepreneurs, comme l'écrivent les auteurs du livre, François Kerfourne et Michel Porta. Les salariés dans les Scopes participent à l'adoption des grandes orientations et élisent leurs dirigeants. Et surtout, les bénéfices sont partagés entre les salariés, mais en gardant toujours à l'esprit la pérennité des emplois et le développement de l'entreprise. Un modèle qui veut donc se démarquer du capitalisme sans bornes, et ça fonctionne. En 2015, 2855 entreprises étaient en Scope, un chiffre en progression de 6% en un an, ce qui fait 51 500 salariés pour un chiffre d'affaires total de 4,5 milliards d'euros. Le livre, Le bonheur est dans la Scope, réunit beaucoup de témoignages de gérants de Scope, aussi un historique passionnant. On regrette toutefois parfois le ton très hagiographique et le peu de place accordée aux difficultés rencontrées par les Scope. L'un des problèmes reste l'image des scopes, souvent associée à la reprise d'entreprises en difficulté. Or, cela ne représente que 10% environ des scopes. Autre difficulté, la relation avec les banques. Et aussi, d'un point de vue plus humain, psychologique, le changement d'attitude, pas forcément évident, de salarié à un rôle d'entrepreneur. Et notons-le, même démocratique, l'entreprise doit rester performante, une gageure, mais une gageure passionnante, celle de l'économie sociale et solidaire.
Les scopes sont-elles présentes dans la culture, Antoine?
Elles sont présentes dans un grand nombre de secteurs, dans le BTP, l'industrie, les services aussi. Il y a des journaux qui fonctionnent en scope, comme Politis ou Alternative Économique. Et pour la culture, j'aimerais parler du cas de l'histoire de la librairie Les Volcans de Clermont-Ferrand, située juste en face de la scène nationale. Cette librairie avait été mise en liquidation en 2013, car elle appartenait au groupe Chapitre. Souvenez-vous, le groupe avait alors fait faillite. En février 2014, la librairie ferme donc ses portes, mais dès le mois d'août, elle les réouvre. 12 salariés ont créé une scope avec le soutien de clients, de la ville et aussi de l'Union régionale des scopes. Et 3 ans plus tard, alors qu'en est-il? La librairie affiche un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, dont 5% de bénéfices redistribués aux associés. Au cours de ces années, 8 personnes ont été recrutées. Il y a aussi des scopes dans le milieu du spectacle vivant, comme Art Syndicate, qui est dédié à la production de musique actuelle. Alors bien sûr, dans la culture de manière générale, il n'est pas facile de passer d'un statut de structure associative à un statut commercial, qui est celui des scopes, ce qui peut effrayer des subventionneurs. Une scope ne peut pas disposer d'autant d'emplois aidés qu'une association. Et enfin, pour monter une scope, il faut au moins 2 équivalents temps plein pour les salariés associés. Donc des contraintes, mais qui peuvent très bien correspondre à certains domaines, comme les librairies justement, ou les sociétés de production.
Merci Antoine Pecker. On retrouve cette chronique sur francemusique.fr et vous, on vous retrouve demain.
À demain.
Bonne journée Antoine. Extrait du premier mouvement du deuxième quatuor, Lettres intimes, quatuor de Léo Janáček par le quatuor Voce. Lydia Chalet, Sarah Dayan, Cécile Roubin sont nos invités. Ce matin, c'est un extrait de votre nouveau disque qui paraîtra dans 2 jours chez Alpha. Ce sera vendredi. Je crois que Sarah Dayan, Cécile Roubin, c'est vous deux. Vous êtes les deux violonistes de ce quatuor Voce. C'est vous qui avez fondé ce quatuor. Quelle a été l'idée de départ?
Oui, effectivement, on l'a fondée il y a 12 ans maintenant.
Cécile Roubin, on vous écoute.
Et je pense qu'on s'est rencontrées toutes les deux autour d'une passion pour ce répertoire. Et que finalement, ça a fonctionné et que nos collègues nous ont rejoints au fil des années. Donc Guillaume, 1 an plus tard, et Lydia, il y a 4 ans, autour de cette même passion. Je crois que c'est vraiment ça qui nous a fondé.
D'où vient le nom d'ailleurs de ce quatuor?
Alors c'est l'italien, c'est-à-dire voix en italien.
Ah alors, il fallait quelque chose ce matin.
Non, mais parfois on entend quatuor vos, donc
c'est vrai.
Oui,
c'est déjà arrivé.
Beaucoup pour rire, mais l'idée de la voix, c'était de s'approprier nos instruments comme la chose la plus naturelle possible et voilà de pas être entravé par. C'est pas une légende que le violon ou l'alto ou le violoncelle sont des instruments extrêmement difficiles qu'il faut pratiquer beaucoup. Et donc, on souhaitait, avec ce nom, viser un espèce d'idéal de naturel et de spontanéité. Parce que la voix, voilà, c'est le premier vecteur de l'expression humaine. En fait.
Et de proposer votre propre voix.
Voilà,
aussi,
après, on peut s'amuser beaucoup avec ça. On s'est amusé dans notre biographie à jouer avec le mot voix sous toutes ses formes. Mais...
Alors vous, Lydia Chalet, vous êtes donc violoncelliste de cet ensemble. Je crois que vous êtes tombée amoureuse du quatuor et puis vous avez essayé de glisser un archet dedans.
Oui,
il y a quelques années.
Non, mais en fait...
C'était lors d'un concert.
Oui, peut-être. Enfin, j'ai rejoint le quatuor il y a 4 ans, mais j'ai déjà fait du quatuor en fait avant.
Oui.
Mais c'est vrai que ce qu'elle dit Cécile, c'est vraiment cette passion qui nous lie. Mais moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert mon instrument à travers le quatuor à cordes et que
de manière générale,
oui,
vous voulez dire ?
Mais parce que moi, j'avais l'impression avant de faire du quatuor, que oui, c'est très bien de jouer d'instrument toute seule, mais c'était vraiment le fait de jouer avec d'autres gens qui m'a fait aimer mon instrument comme je l'aime maintenant et en tant que violoncelliste du quatuor à cordes.
Mais attention, scoop, Lydia, elle est aussi oboïste.
Oui, effectivement.
Oui, si elle a choisi
mais oui, c'est ça.
Percer dans le violoncelle, c'est pour faire du quatuor à cordes.
Oui, c'était pour, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc, je pense que il y avait un moment où j'allais peut-être faire un choix entre les deux instruments et c'était vraiment le quatuor à cordes qui m'a fait tenir sur le violoncelle.
Voilà. Alors, il y a, je le disais, un lettiste bordelais, Guillaume Becker, qui complète cette formation, ce quatuor Voce. Et vous êtes tous les quatre, et ça revient beaucoup hein, quand on travaille sur votre quatuor, je veux dire, en préparant une interview, on retrouve beaucoup cette notion de charte que vous avez tous les quatre signée. Et...
Elle ne circule pas encore sur le net.
mais moi, j'étais curieuse de la lire, effectivement, Sarah Dayan.
Ça fait partie de ce qui nous caractérise pas mal, c'est cette idée que chacun est... Enfin, ça me faisait rire d'entendre la chronique du journaliste
Becker.
Précédent sur les scopes, que chacun est vraiment acteur de cette micro-entreprise qu'on a créée. Et à la fois...
Quoi, le quatuor fonctionne comme une entreprise
voilà.
Chez vous?
Mais c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de chef.
Oui, c'est ça que j'avais demandé, est-ce qu'il y a un patron?
Il n'y a pas de chef. Et donc les responsabilités sont... on ne peut pas dire qu'on a un quart de responsabilité, mais plutôt qu'on a 400% de responsabilité. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais que chacun a 100% de responsabilité fois 4, quoi. Donc du coup, voilà, ça fait partie de ces choses.
Et qu'est-ce qu'elle implique, cette charte? Je crois qu'il y a des règles, enfin, je ne sais pas si on peut dire règles, mais établies autant sur le côté artistique que organisationnel oui. du quatuor.
En fait, pour résumer, je pense qu'effectivement, on travaille ensemble et ben il n'y a pas... Pas comme dans une entreprise, justement, il n'y a pas de texte qui régit un peu comment ça doit se passer. Et souvent, le quatuor à cordes, ça se passe très bien, mais ça peut aussi être compliqué.
Mais alors,
parce
concrètement,
que on vit ensemble.
Cécile Robin, ça ressemble à quoi, cette charte?
Effectivement, il y a un ensemble de règles qui nous permet de nous situer, surtout en fait en période de crise, c'est-à-dire qu'en ce moment, ça se passe très bien, donc on sort pas trop la charte, mais ça va de l'encadrement du nombre de concerts qu'on accepte dans l'année, du nombre de répètes, de comment on prépare une répétition, de comment ça se passe dans la répétition, voilà, avec des choses qui paraissent complètement... stupide comme des règles de politesse, mais qui en
c'est
fait si vous faites on se dit bonjour en arrivant en répétition, enfin je sais que ça sonne très étrange parce que c'est les règles du vivre ensemble qu'on n'a pas besoin d'écrire normalement, mais en fait si vous faites une petite enquête dans les quatuors à cordes, je pense que ça arrive en fait plus souvent qu'on ne pense que c'est parfois compliqué, quoi, parce que aussi on vit ensemble, on est parfois en tournée pendant 10 jours, 24 heures sur 24 ensemble. Donc c'est vrai que parfois, on lâche un peu le...
On relâche un peu la...
Voilà, on est des collègues et on est plus que des collègues. Donc voilà, à un moment dans l'histoire du quatuor, on a eu besoin de mettre un certain nombre de choses à plat. Et en fait, avec le départ de chaque membre, il y a eu une remise à plat comme ça qui nous a permis de discuter avec... Le nouveau venu.
Les
aussi
nouveaux
adhérents.
Donc au départ, vous étiez quatre, et puis il y en a deux qui sont partis pour être remplacés par.
Voilà, c'est ça.
Par Guillaume Becker et Lydia Cellet. On va écouter un extrait d'un quatuor de Beethoven à 8h23 sur France Musique, dans une version que vous avez choisie, vous les membres du quatuor Voce, le quatuor Almanberg. Quelques notes du 15e quatuor en la mineure de Beethoven par le quatuor Almanberg. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez Beethoven joué par le quatuor Almanberg, Sarah Dayan?
C'est cette lisibilité incroyable qu'ont trouvé les Allbandberg. Parmi les grands, les immenses quatuors qui ont enregistré cette bible du répertoire, on revient toujours à cette version-là, en fait. C'est la plus évidente pour nous. Enfin, évidemment, il existe
des tas de versions. C'est partagé, j'imagine, autour de la table, Lydia Chélet, Cécile Roubin.
Oui, tout à fait. En fait, on a enregistré un disque Beethoven il y a quelques années. On s'était fait beaucoup d'écoutes, parce que, bon, il y a 1000 versions disponibles. Et en fait, c'est vrai que... Bon, c'est un peu... normal, puisque c'est notre éducation, on a beaucoup travaillé avec Günther Pichler, donc
voilà, qui fait le premier violon de
effectivement, je pense que c'est pas neutre pour nous, mais quand même, surtout les quatuors qu'on écoutait, toutes les versions, il y a une espèce de, enfin moi je parlerais surtout de l'énergie en fait, un espèce de drive, une énergie, un truc qui nous prend, enfin qui nous prend et qui nous lâche pas. C'est pas forcément toujours la perfection et tout ça, mais par contre c'est, je sais pas, une espèce de rage comme ça et de trucs qui je trouve j'arrive
on
pas à finir ma phrase
par le ventre. Enfin, c'est sûr que en travaillant beaucoup avec Günther Pichler aussi, le violoncelliste Valentin Erben, on sait très bien la passion aussi qu'ils ont et l'exigence qu'ils ont dans leur métier. Je trouve que ça s'entend beaucoup, surtout par rapport au texte. Enfin, je pense que ces immenses quatuors, surtout enfin celui-là, le 132, ça dure 45 minutes. C'est de la musique finalement très moderne pour l'époque et je pense que...
Donc là, on est en 1984.
Oui, ils arrivent quand même à nous faire comprendre le texte, la partition, de manière très impressionnante, je trouve.
Alors, vous avez votre premier disque remonte à 2009. C'est un disque consacré aux œuvres de Schubert. Et puis, on suivit en 2013 les quatuors de Beethoven dont on parlait. Et puis, les quatuors avec flûte de Mozart, avec Juliette Hurel, le flûte solo de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Et puis encore en 2015, en album Mozart et Brahms, avec l'altiste Lise Berthaud. C'est comme ça que vous fonctionnez pour tous les disques que vous enregistrez. C'est écouter un tas de versions différentes. Avant de vous lancer vous-même, Cécile Ondin.
Non, je crois qu'on a eu des méthodologies un peu différentes, mais c'est vrai que pour Beethoven, je pense que le côté, comme Sarah disait, de Bible, il y a une dimension, voilà, quand on est quartettiste, l'équateur de Beethoven, c'est vraiment voilà, le Graal, enfin, tout, on peut utiliser plein d'images. Donc je pense que là-dessus, on s'est vraiment préparé d'une certaine façon. Il se trouve que à l'époque aussi, c'est un peu les hasards des lieux de répétition qu'on peut avoir, où voilà, il faut toujours trouver un lieu de répétition à Paris. À l'époque, on répétait chez Bernard Fournier, qui a écrit une somme importante sur le quatuor à cordes, et qui est complètement passionné de Beethoven, et donc on avait sous notre nez
voilà,
40
versions
disponibles, donc ouais. il se trouve que ça s'est fait comme ça aussi. Après, évidemment, qu'on écoute des versions, mais on l'a fait de façon très exhaustive, spécialement sur ce disque-là.
Est-ce que vous êtes inspiré aussi par des musiciens d'autres univers musicaux?
Oui, bien sûr.
Ah oui, évidemment.
Sarah Dayan.
Là, ce qui me vient en tête le plus rapidement, c'est cette rencontre avec Vincent Segal. On vient de commencer une collaboration avec lui, qui va donner lieu à...
Parlez-nous, qui est Vincent Segal?
Vincent Segal, violoncelliste. De grand talent, violoncelliste mais multi technicien de son instrument, c'est-à-dire qu'il a adapté au violoncelle des techniques de la guitare, mais aussi d'instruments africains, d'instruments du monde entier, je pense même. Et il est assez sidérant à regarder jouer et à entendre, parce que il y a des moments où on reconnaît à peine le son du violoncelle. Et
voilà, qu'est-ce qui vous inspire là-dedans? Sarah Dayan.
Ce qui nous inspire là-dedans, c'est cette ouverture à d'autres univers. Le fait de pouvoir adapter à nos instruments classiques un langage qui n'est pas forcément le nôtre au départ.
Et c'est vrai que vous aviez déjà collaboré avec d'autres musiciens d'autres univers musicaux, comme le chanteur et guitariste Mathieu Chédid, ou encore la chanteuse canadienne Kiri Christmanson. Je vous propose d'écouter quelques notes avant de retrouver Jean-Baptiste Urbain. Jean-François Urbain, c'est pas mal ça. Vous aurez pensé à vous rebaptiser Jean-Baptiste. On vous retrouve dans un instant.
I am here, 'Cause I am here more than who we are. Come close and you will see. You've got to come a little closer and you will see. The birds fly sideways to my own.
Modern Rune de Kiri Christmanson avec le Quatuor Voce qui sont nos invités ce matin. Et c'est un nouveau disque que vous sortirez d'ici deux jours sous le label Alpha. On en écoutait un extrait tout à l'heure, on va en réentendre un autre. Eh bien, avant cela, on va retrouver Jean-Baptiste Urbain. Bonjour.
Bonjour.
Alors, à l'occasion de la sortie de cet album, vous donnerez le Quatuor Voce mardi prochain, un concert de lancement. Alors, vous auriez pu le faire dans la salle Gaveau, au théâtre des Champs-Élysées, ou je ne sais pas moi encore, la Cité de la Musique. Mais non, vous avez choisi le cadre du Cabaret Sauvage. C'est probablement la première fois que cette salle accueille un concert classique. Jean-Baptiste, vous nous emmenez découvrir ce lieu étonnant, caché dans le parc de la Villette.
Oui, on entend la rumeur du boulevard périphérique à quelques dizaines de mètres. De l'autre côté du canal de l'Ourcq, on aperçoit le zénith et puis plus loin l'immense coque en acier de la Philharmonie de Paris. Et nous voilà devant le chapiteau du Cabaret Sauvage. Alors, depuis 20 ans tout juste cette année, cette salle de type Magic Mirror, sertie de vitraux et de miroirs avec son velours rouge, accueille toutes sortes de spectacles. Sa capacité est de 600 places assises, 1200 places debout. Et dès qu'on entre, difficile de ne pas tomber instantanément sous le charme.
Donc voilà, bienvenue dans cette salle circulaire. Il y a un aspect très cocon et très chaleureux du fait que ce soit entièrement en bois. Et peu importe où on est dans la salle, on se sent proche des artistes.
C'est une salle privée, indépendante, le Cabaret Sauvage, Jean-Baptiste ?
Oui, complètement. Le lieu loue une concession au parc de la Villette, mais la programmation, elle, est indépendante. C'est Méziane Azaïch qui l'a créée il y a 20 ans, cette salle. Il avait auparavant organisé d'autres spectacles dans un autre Magic Mirror, dans un spectacle du chanteur Arthur H. intitulé Le Cabaret Sauvage, le nom est donc resté. Quant à la programmation, elle balaie un spectre extrêmement large, de la musique brésilienne au reggae, en passant par Mathieu Chédid et même jusqu'à Sheila. Si, si, Marie Lecam est l'administratrice du lieu.
Cette salle, elle accueille tous les concerts de type musicaux qu'on puisse avoir aujourd'hui. Donc ça peut être du rock, du métal, ça peut être du jazz, ça peut être du hip-hop, etc. Et nous, on a en plus une petite couleur musique du monde, de fait de la nationalité du directeur, qui est donc algérien. Et donc lui met un point d'honneur à valoriser aussi toutes ces cultures maghrébines et plus largement aussi toutes les cultures du monde, les musiques d'Afrique, les musiques d'Amérique latine, les musiques des Balkans, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une salle qu'on souhaite volontairement ouverte sur le monde extérieur et sur les musiques d'extérieur.
Y compris donc de la musique classique, Jean-Baptiste ?
Oui, alors ça c'est nouveau. Giulia De Vecchi, qui s'occupe de la programmation et de la production du Cabaret Sauvage depuis 5 ans, ne se souvient pas d'avoir déjà accueilli un ensemble classique sous son chapiteau. Alors il ne s'agit pas de concurrencer les salles, la grande et la plus petite de la Philharmonie, non. D'ailleurs, ce n'est pas le Cabaret Sauvage qui a eu cette idée, ce sont vos invités, Saskia.
C'est eux, c'est le Quatuor Voce qui est venu au Cabaret Sauvage, ils ont beaucoup aimé la salle. Pour eux, c'est aussi un moyen de changer un peu leur envie, c'était justement de désinstitutionnaliser un peu la musique classique. Et le Quatuor Voce a beaucoup aimé le lieu, qui est un peu un écrin, velours et bois, et qui crée une proximité au public. Et nous, au Cabaret, on était ravis. On est ravis de pouvoir accueillir de la musique classique. Et effectivement, pour nous aussi, voilà, ça fait partie des musiques du monde, enfin, ça fait partie de la musique, en tout cas. Donc on est ravis et d'ailleurs ils vont revenir. Ça, c'est le premier, mais on les accueille également en juin.
Voilà, ça c'est une info. Premier concert mardi prochain et donc autre rendez-vous au Cabaret Sauvage du Quatuor Voce en juin, en espérant qu'il n'y aura pas de basse trop forte venant du Zénith voisin de l'autre côté du canal. Mais mardi, ça va, j'ai vérifié, il n'y aura rien.
Merci Jean-Baptiste Urbain. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce lieu, dans ce Cabaret Sauvage, Sarah Dayan?
Ben, c'est-à-dire que vous rentrez, le reportage est magnifique, hein, bravo, parce que ces petits bruits de pas.
Oui, on s'y croit.
Ouais, on s'y croirait. Vous rentrez et vous êtes happé par ce parquet tout de bois et ce velours rouge. C'est vraiment magique. Enfin, ça porte bien son nom de Magic Mirror.
Et le fait de jouer dans un lieu finalement qui n'accueille pas, comme nous le disait Jean-Baptiste, de concerts classiques.
C'était un petit peu le but aussi. Enfin, c'était l'idée d'un peu déplacer le format du concert et le lieu du concert, du coup, pour en changer les normes, quoi. Donc, un lieu, voilà, où, comme l'a dit Julia, apparemment, il n'y a pas eu de musique classique avant.
Et ça permettrait aussi d'attirer un autre public, peut-être ?
C'est l'idée, ouais. Oui, j'espère. Pardon, je...
Lydia Chélet.
J'enchaîne. Mais je pense que pour nous, l'idée de faire des concerts au Cabaret Sauvage, ça rejoint aussi nos idées sur le Quatuor à cordes en général. C'est-à-dire que cette musique qui nous passionne autant, enfin tellement, on l'a déjà depuis des années, on est allé vers d'autres univers, d'autres musiciens, artistes, danseurs, pour partager leur monde. Et en fait, là, on voulait trouver un lieu où il y a des gens qui peuvent venir rentrer dans notre monde, mais d'une autre manière, c'est-à-dire pas aller dans une grande salle de musique classique qui pourrait potentiellement faire peur aux gens ou décourager, ou peut-être juste simplement, c'est peut-être pas la convivialité qu'on souhaiterait quand on passe une soirée entre amis. Donc là, on a essayé, on est vraiment tombés amoureux tous les quatre du Cabaret Sauvage, justement pour cette idée de partage, de lien entre les gens, entre tous les types de musique, tous les styles. Pour nous, ça nous plaît beaucoup qu'ils accueillent pas de concerts de musique classique, parce qu'on essaie d'être un peu militants là-dessus. Voilà.
Il est 8h38 sur France Musique et voici ce qu'on pourra entendre au Cabaret Sauvage mardi prochain. à la Tango Milonga, l'une des cinq pièces d'Erwin Schulhoff, un extrait de votre nouveau disque du Quatuor Voce, qui est notre invité, enfin, qui sont les membres de la matinale ce matin sur France Musique. Nouveau disque intitulé Lettres intimes du quatuor de Jan Hacek, qu'on retrouve également sur ce disque. Il sortira vendredi chez Alpha et il célèbre, je vous cite, l'amour et le corps. C'est-à-dire.
Alors,
Cécile Robin.
Donc, le cœur de ce disque qui a donné son nom à l'album, d'ailleurs, c'est le quatuor de Jan Hacek. Donc, je vais aller vite parce que je crois qu'on n'a pas.
Ah non, vous prenez tout votre temps. Non, ne vous inquiétez pas, on s'adapte.
Donc, ce quatuor de Jan Hacek, c'est sa dernière œuvre. Il l'a écrit dans la fin de sa vie, alors qu'il était pris d'une passion pour une jeune femme qui avait 40 ans de moins que lui. Et en fait, il y a une correspondance enflammée qui existe entre ces deux personnages.
Comment vous l'avez découverte, cette correspondance?
C'est une histoire qui n'est pas très mystérieuse. Après, on a fait des recherches justement pour cette soirée du 28, où il y aura des choses...
Au cabaret sauvage.
Des surprises. De la musique. Du coup, en fait, moi, j'ai lu toute cette correspondance et c'est très impressionnant... de voir à quel point, c'est pas une histoire qu'on raconte sur cette œuvre, quoi. C'est-à-dire que Jan Hacek était complètement possédé par cet amour, etc. Et donc dans cette correspondance, il lui dit qu'il va écrire un quatuor qui va appeler Lettres d'amour. Donc finalement, après, il a changé le titre
pour Lettres intimes.
Pour Lettres intimes, qui trouvait, je pense, un peu plus correct vis-à-vis de sa femme, parce que c'était un amour très fantasmé et plutôt impossible, puisqu'ils étaient tous les deux mariés, etc. Donc plutôt contrarié, en tout cas.
Pourquoi avoir choisi ce quatuor-là?
Alors, c'est un quatuor qui nous accompagne depuis très longtemps. Je pense que la première fois qu'on l'a joué, c'était en 2008. Donc, c'est un quatuor qui est un peu fou, l'écriture, elle est un peu en mosaïque, en fait. Vous avez pu entendre un extrait tout à l'heure. Ça change tout le temps de caractère. C'est très caractéristique de toute façon Jan Hacek en général, mais ce qu'on a beaucoup aussi aimé dans ce quatuor, c'est la distribution. En fait, on peut tous, c'est ce qu'on aime dans le quatuor en général, mais dans ce quatuor de Jan Hacek, c'est vraiment particulier. On peut tous passer d'un rôle à l'autre, du rôle, le violoncelle qui sort de son rôle de basse.
Je crois qu'il y a d'ailleurs une particularité dans votre quatuor qui est régie, je pense, aussi par cette charte, c'est qu'il n'y a pas de premier violon avec.
Si, il y en a deux.
Il y en a deux, exact. Oui,
et deux deuxièmes.
Mais oui, soyons positifs. Sarah Dayan, Cécile Robin, vous changez de rôle en fonction de la partition. C'est quand même pas courant.
Ça fait partie de. Ça existe quand même pas mal, mais effectivement, ça fait partie de la façon qu'on a, nous, de faire du quatuor et de concevoir cette chose, c'est-à-dire. Effectivement plutôt une idée de mosaïque où chacun peut s'exprimer pleinement en harmonie avec les autres plutôt que quelque chose de régi par des règles très, très strictes et très académiques de un premier violon qui est leader et trois autres qui l'accompagnent. Et donc, pour en revenir à l'amour et au corps...
Mais oui, c'était ma question de base.
Donc, ce quatuor de Jan Hacek, qui a été vraiment motivé par une histoire d'amour très intense et très très forte... le quatuor de Bartok qu'on a enregistré en miroir.
Le premier quatuor de Bartok.
Il est aussi. Alors c'est pas du tout aussi présent dans la gestation de l'œuvre, etc. Mais il a quand même été écrit après une déception sentimentale de Bartok. Il le dit. Il était très amoureux de cette violoniste Steffi Geier à qui il a écrit aussi son premier concerto de violon. Et il écrit que donc le premier mouvement, c'est un espèce de chant funèbre, donc en hommage à cette déception. Il utilise un motif, les quatre premières notes qu'on entend en canon entre les deux violons au début sont le motif de Steffi, donc de cette femme. Et le quatuor de Bartok, son premier, donc c'est un espèce de chemin de ce chant funèbre vers une renaissance une libération et une réappropriation de soi-même.
Et finalement.
Après, un amour déçu. Donc ouais. Voilà, l'amour, c'est un peu ce qui tient le disque.
Et avec Erwin Schulhoff aussi, Sarah Dayan, Lydia Chélé. Sarah Dayan.
Pardon, j'ai un petit problème de voix. les danses d'Erwin Schulhoff sont là plutôt pour justement un peu égayer ce disque qui peut avoir une teneur un peu pesante, peut-être avec ces histoires fortes d'amour. Lui, il était plutôt, donc c'est un compositeur tchèque qui a malheureusement fini très tragiquement dans les camps en 42, mais qui a eu
J'allais dire, c'est pas très joyeux.
Non, c'est pas très joyeux. Non, mais alors, sa mort est pas joyeuse, mais en revanche, sa musique l'est. En tout cas, ces cinq pièces le sont énormément. C'est une façon pour lui de se. Les cinq pièces sont en référence à des danses.
Et c'est vrai qu'on écoutait là,
de façon un peu pastiche. C'est-à-dire que ça commence par une valse, mais une valse bancale, une valse à quatre temps. Jacques Brel en parle pas de celle-là, mais
non, c'est vrai.
Une valse à quatre temps ou à deux temps, et puis de temps en temps à trois temps quand même. Mais une valse, une sérénade, une cerda, une milonga qu'on a entendu, et une tarentelle. Ça finit par une tarentelle endiablée, et c'est le petit clin d'œil un petit peu positif du disque.
Mais oui, et il y en a d'autres. Et c'est vrai que finalement, ces cinq pièces montrent aussi votre ouverture sur la musique d'ailleurs. On en parlait tout à l'heure avec la chanteuse canadienne Kiri Christmanson. Mais vous avez aussi un projet à venir. Ce sera avec Hamza Eldin, que moi je ne connaissais pas, un virtuose de l'oud. Avec qui vous lancez dans un nouveau projet ?
Alors non, Hamza Eldin est décédé. Mais par contre... Non, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est un projet qu'on a, parce qu'effectivement, on est assez attaché à ce travail entre les musiques de, voilà, du monde ou de la terre, ou de, qui ont un rapport avec quelque chose de très, très comment dire, profond. Et... J'ai un peu du mal à trouver mes mots ce matin. Mais... en fait, la pièce d'Hamza Eldin que vous allez entendre, c'est une commande du Quatuor Chronos. Et Hamza Eldin, donc c'est un virtuose du oud et qui chante aussi. Et cette pièce, c'est une transcription qui a été faite à la demande du Quatuor Chronos d'un de ses tubes, si on peut dire ça. Vous allez entendre, c'est vraiment de la musique orientale faite par un quatuor à cordes. Et bon, bah, c'est un outil que, voilà, encore une fois, le quatuor à cordes, c'est un outil qui permet d'aller vraiment partout. Et on part de cette base pour, à notre tour, on a commandé des pièces à différents musiciens, dont Vincent Segal, dont parlait Sarah
tout à l'heure.
En s'inspirant de ce travail et en le prolongeant, quoi. Thank you.
Extrait de Escalier roue hydraulique d'Hamza Eldin par le Quatuor Chronos. Choix de celles qui étaient nos invitées ce matin, Cécile Roubin, Sarah Dayan, Lydia Chélet. On va quand même rappeler ce concert. Ce sera mardi prochain, à l'occasion de la sortie de votre nouveau disque Lettres Intimes sous la Belle Alpha. Ce sera mardi prochain au Cabaret Sauvage, dans le 19e arrondissement à Paris, dès 19h pour ce concert de sortie avec des surprises aussi. On n'a droit à aucune.
Oh non, mais ce
serait petite annonce
drôle,
ça, ce matin.
Si on vous dit tout.
Non, mais.
Non, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un accueil en musique à 19h. Et en musique et en boisson, c'est pour les gens qui le souhaitent, parce que le bar du Cabaret Sauvage sera ouvert. Mais qu'on peut arriver entre 19h et 20h. C'est tranquillement. La soirée elle-même commencera vraiment à 20h.
Voilà,
donc, le message pas d'inquiétude est passé pour ceux qui travaillent jusqu'à tard.
Exactement. Et puis le 11 mars, on va quand même souligner que vous revenez ici à la Maison de la Radio pour l'enregistrement en direct et en public de l'émission Plaisir du Quatuor avec Stéphane Goldet. Merci à toutes les trois d'être passées nous voir ce matin. Et puis bon succès mardi prochain.
Merci à vous.
À très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.